BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi, l'heure des experts de l'IMO, mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité et les tensions qui sont de plus en plus fortes ce midi sur le marché obligataire. La dette de l'État français à 10 ans frôle désormais les 3,9%. La dette allemande, elle est au-delà des 3,10%. Quant au baril de Brent, il est reparti bien au-delà des 100 dollars côté pétrole, donc conséquence du conflit au Moyen-Orient en cours depuis près d'un mois maintenant. Conflit qui semble bel et bien parti pour continuer à durer. Après l'annonce d'un nouveau report de l'ultimatum lancé par les États-Unis à l'Iran, Donald Trump a donné la nuit dernière 10 jours supplémentaires donc à l'Iran pour convenir d'un accord et rouvrir le détroit d'Ormuz. Faute de quoi, le président américain menace toujours de détruire les centrales énergétiques iraniennes. Alors que Washington affirme toujours être en discussion avec Téhéran, les gardiens de la Révolution ne faiblissent pas sur le blocage du détroit. Ils annoncent ce midi avoir forcé 3 porte-conteneurs à faire demi-tour en précisant que le passage était désormais fermé aux navires en provenance ou à destination de ports liés aux Américains ou aux Israéliens. Allez, c'est l'heure des experts de l'immobilier.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, ce ne sont pas les meilleurs professionnels de ce secteur qu'on reçoit sur le plateau de BFM Business, mais bien les meilleurs journalistes. Et à mes côtés, Catherine Boquet et Guillaume Erard aujourd'hui. Et beaucoup de sujets, évidemment. Le premier d'entre eux, vous le connaissez, vous en avez l'habitude, le fameux topoto de la semaine. Bon, on va pas se mentir, je vous ai parlé dans le rappel de titre de l'OAT 10 ans. Les courtiers en crédit commencent à recevoir les grilles pour ce mois d'avril et on va pas se mentir non plus, on est bel et bien sur un début de hausse des taux d'intérêt. Ne paniquez pas non plus. D'ailleurs, on en profitera pour rappeler que contrairement à ce que beaucoup pensaient, finalement les taux à 1%, vous en souvenez, c'était pas forcément une bonne nouvelle pour les primo-accédants. On y reviendra très rapidement. Également au programme de nos experts de l'IMO du vendredi, l'assouplissement des exigences sur la réglementation environnementale 2020 pour les constructeurs de logements neufs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On en parle. On parlera aussi dans le désordre, logistique, résidence secondaire, Airbnb, programme IMO du nouveau maire de Paris. Et puis on fera un petit détour en Midi-Pyrénées pour s'offrir un petit château comme ça pour terminer. Allez, on y va.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, la formidable journaliste indépendante Catherine Boquet. Bonjour Catherine.
Bonjour Marie.
Et le tout aussi formidable journaliste du Figaro, Guillaume Erard. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marie, bonjour Catherine.
Et le super jingle pour démarrer, les experts de l'IMO du vendredi.
Les experts de l'IMO, le topoto de
vite,
la semaine.
Il est parti vite, on l'attendait, on voulait le lancer ce topoto. Eh oui, on voulait le lancer Guillaume, parce que ça commence à piquer là. On a commencé à recevoir les grilles banques des courtiers là qui nous appellent, qui nous disent « Ah oh, bah tiens, une petite hausse par-ci, une petite hausse par-là ». On rappelle, on était sur 3,35 en moyenne sur ce mois de mars qui est en train de se terminer. Semblerait que bon an mal an, en avril, on soit un petit peu plus haut, non là?
On est un peu plus haut et comme vous le disiez en introduction, la guerre semble partie pour durer et cette semaine, le courtier Meilleur Taux a justement publié un communiqué là-dessus et évoque une hausse moyenne de 0,20% si ce conflit venait à durer. Et dans un échange avec des banques, il y a une barre fatidique que les banques ne voudraient pas dépasser, c'est les 3,5%. On est en début d'année, c'est le printemps, on a envie de conquérir des nouveaux clients, de rentrer des dossiers. Donc, pour l'instant, on a envie d'être positif. Mais vous l'avez rappelé, l'OAT, qui est un peu le maître étalon, avoisine les 3,9%. OK, on n'a pas la flambée qu'on a connue il y a 4 ans avec la guerre en Ukraine, mais il faudrait pas que ça flambe de trop, parce que il y a quelque chose qu'on a un peu oublié, qu'on a un peu mis de côté. Je sais pas si vous vous souvenez, le fameux taux d'usure.
Oh mais oui, is back, le taux d'usure is back. Et d'ailleurs, on a le nouveau qui est tombé là cette semaine.
Un peu plus de 5%.
Ouais.
Donc, mettons, vous voyez, on est autour de 3,4%. On en est loin. On rappelle que c'est 3,4% hors assurance. On en est loin.
Oui, parce qu'alors, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter,
voilà,
avec tout dedans, c'est-à-dire pas uniquement le taux nominal. Et là, on est à, de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, celui qui est tombé ce matin ou hier, c'est
5,19.
Oui, ouais,
5,19,
tout compris.
Alors que là, les taux dont,
pour les crédits
dont on vous parle, c'est hors assurance. Donc, il faut que vous rajoutiez l'assurance, et selon votre profil, il peut être plus ou moins élevé. Donc, ça peut monter à 4%. Donc, bon an, mal an, si cette flambée pour l'instant qu'on exclut, enfin que les banques et les courtiers
veulent
excluent.
Pas. Non, c'est pas qu'ils l'excluent, c'est qu'ils veulent.
Ils
pas,
veulent pas en parler tout de suite.
Voilà,
parce que
ça
premier semestre, c'est souvent dynamique, ouais. C'est on est positif. Eh ben bon an, mal an, on pourrait s'approcher des 5. Et alors là, du coup, ça ferait des dossiers
bloqués. C'est le fameux effet ciseau, c'est-à-dire qu'à un exactement. Moment donné, quand les banques voudront refaire un petit peu de marge sur le crédit, mais qu'en fait elles sont bloquées par le taux d'usure, elles vont plus prêter du tout, quoi. Et on risque de se retrouver dans cette situation au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine et de la poussée inflationniste.
Exactement. Alors, si on veut terminer par une bonne note, en tout cas, c'est celle qu'ont retenu les banques. C'est la semaine dernière, c'est la Banque Centrale Européenne qui a maintenu ses taux d'intérêt. Mais on rappelle, un peu technique, mais je vais essayer d'être court, la Banque Centrale Européenne, c'est des taux courts, alors que l'investissement, c'est des taux longs. Ça donne un bon signal quand même aux banques sur leurs conditions de refinancement. Mais c'est qu'un critère, quoi.
Oui, puis on rappelle quand même, Guillaume, qu'on avait quand même plus ou moins prévu avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient qu'il y ait des baisses de taux cette année. Là, on est plutôt sur des hausses de taux à prévoir de la Banque Centrale Européenne. Et quand ce sera le cas, parce qu'a priori, ça va être le cas à un moment ou un autre au fur et à mesure de l'année.
Dans ces conditions-là, si l'OAT continue à grimper et la guerre perdurer, on voit pas comment...
Voili, voilou. Donc, voilà. En gros, on est en train de dire à nos auditeurs et téléspectateurs, globalement, vous attendez plus dans les mois qui viennent à une baisse de taux. On est plutôt sur une tendance.
Vigilant, parce qu'on a vu ces derniers mois que, notamment la Société Générale et la Banque Postale ont proposé des baisses entre 0,1 et 0,2. Alors là aussi, c'est un peu technique, c'est juste qu'elles avaient du retard. Elles avaient des taux qui étaient plus élevés que la moyenne. Et donc, du coup, elles ont dû baisser. Donc, restez vigilants, on ne sait jamais. Il peut y avoir, selon les profils aussi, et on rappelle, les taux bonifiés, ça continue toujours. Donc, mais voilà, le premier semestre est bien entamé. C'est surtout le second semestre qui va être aussi intéressant à voir.
Et justement, je voulais rebondir là-dessus parce que c'était un autre sujet dont vous souhaitiez parler, mais comme c'était corrélé à nos taux d'intérêt, c'est-à-dire que bon, quand bien même on serait autour de 3,5% d'ici un mois ou deux sur 20 ans sur nos crédits IMO, ça serait pas finalement une si mauvaise nouvelle. On a des économistes. Alors, pardon, mais j'aurais pu être économiste moi-même, ça fait des années que je le dis. Les taux à 1%. C'était pas une bonne nouvelle pour les primos.
Et c'est la Banque de France qui bat en brèche l'idée reçue.
Mais moi,
une note qui est parue le 23 mars.
Mais c'est quand même dingue, moi. Je vous regarde tous les deux, mais c'est quand même dingue. Parce que franchement, faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que quand les taux sont bas, les prix sont hauts. Pardon, hein,
mais. C'est logique,
oui. Ils ont étudié 2017-2022, les taux étaient extrêmement bas. Mais dans le même temps, les prix avaient augmenté de 22%. Donc, ce que les primo-accédants, là, ils ont ciblé les primo-accédants, gagnaient d'un côté, ils l'ont perdu de l'autre.
Et surtout, ils ne peuvent pas regagner, parce que c'est-à-dire, à chaque fois, je le répète à l'antenne, un prix, ça ne se renégocie pas. Voilà. Un crédit, ça se renégocie en cours de route.
Absolument.
Hein. Parce que quand bien même, si dans deux ans, on a... C'est-on jamais une baisse de taux. Ça y est, tout va bien dans le monde, etc. Là, pour le coup, vous pourrez renégocier vos 3,5%. Alors que si vous avez... payer un prix stratosphérique,
oui,
c'est
alors
terminé.
Le problème sera toujours le même, parce que ce que pointe la Banque de France, c'est surtout le problème de l'offre de logement.
Ouais.
Donc, tant qu'il n'y a pas d'offre, l'offre existante, elle ne va que se surenchérir. Non, se renchérir.
On peut le dire.
Voilà. Et donc, c'est le cercle vicieux, et tout n'est pas dans le taux.
Ouais, c'est vrai. Mais Guillaume, enfin, c'est un vrai sujet ça. Et je pense que c'est bien de terminer ce topoto de la semaine en disant 3,5%, ça même pas mal parce qu'en fait, c'est peut-être mieux finalement qu'1%.
On se disait, mais est-ce qu'on pourrait pas appliquer ce principe à des taux un peu plus élevés? Autant dire des taux à 3,5%. Est-ce que finalement, c'est pas une bonne nouvelle pour les primos? Alors, j'ai posé la question aux auteurs de l'étude. Ils m'ont dit, on peut pas le dire comme ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça a permis de ralentir la hausse. Donc, bon an, mal an, on a eu des revenus qui ont augmenté ces dernières années. Donc, ces prix qui ont un peu, la hausse a été ralentie ou alors ils ont baissé. Donc, ça a quand même permis, on l'a vu sur certaines études publiées par les courtiers ou les agents immobiliers, un petit regain du pouvoir d'achat. Évidemment, c'est pas ça qui a annulé l'explosion des taux en 2022, mais mine de rien, et d'ailleurs on le voit, dernier chiffre de la Banque de France encore une fois, la part des primo-accédants, 56%. Donc c'est quand même plus important que les 30 ou 40% qu'on avait lorsque les taux étaient beaucoup plus élevés. Donc voilà, c'était plutôt inattendu comme résultat.
Ouais, mais ça fait plaisir de le dire.
Mais ça redonne un peu
et puis surtout, évidemment, on vous fait peur tous les jours en parlant de l'OAT, de la probable hausse de nos taux d'intérêt, mais encore une fois, calme, quoi. Calme, parce qu'en réalité, effectivement, c'est peut-être pas la pire des situations.
On l'a vu d'ailleurs, à un moment donné, Donald Trump a pris la parole. Les bourses étaient à moins 2. Deux minutes plus tard, elles étaient à plus 2.
Et d'ailleurs, donc, cette instabilité des marchés au vraiment... sens large, que ce soit sur le marché obligataire, le marché du pétrole, le marché du gaz, le CAC 40 et toutes les autres places européennes et mondiales, on a envie de dire, bah, venez vers l'immobilier. Valeur refuge. Et j'embraye sur un autre sujet, parce que Catherine, vous disiez un truc qui était très juste. C'est-à-dire qu'en vrai, le vrai souci qu'on a sur notre marché, c'est bien l'offre. Et on a quelque chose qui va nous permettre peut-être de renchérir l'offre. Alors, elle me regarde avec un air, pitchounet, un assouplissement de la réglementation sur la construction.
De la fameuse RE 2020.
La fameuse RE 2020, réglementation environnementale 2020. Dites-nous tout, Catherine.
Qui sera appliqué. Donc, un ajustement, des ajustements qui entreront en vigueur au 1er juillet prochain. C'est issu de recommandations, de préconisations qu'a faites Robin Rivaton,
par exemple. Qu'on salue d'ailleurs, qui vient régulièrement,
chez vous, voilà, de Stonal, au ministre du Logement, qui les a prises en compte pour certaines. Donc, la RE 2020, elle encadre. Donc, les ajustements, ils portent sur quoi? Les promoteurs disent, nous, nos coûts, ils surenchérissent et notre note carbone, elle est mauvaise parce qu'on nous oblige à faire des choses qui nous pénalisent. Par exemple, les balcons, des terrasses, des plafonds hauts, tout ça compte et ça pénalise la note. Je résume un peu l'histoire. Donc là, il y aura des allègements sur ces aspects-là. Il y aura aussi des allègements sur les immeubles grande hauteur, parce que densifier par le haut, c'est une bonne idée, mais les contraintes sont énormes. Et l'impact sur le coût carbone est énorme aussi. Donc, il y aura aussi des allègements. Idem pour la surélévation des immeubles. À Paris, alors il y avait une étude de la Purge, je ne l'ai pas retrouvée, parce qu'elle date d'il y a longtemps, sur combien de logements
pour créer. Je crois que c'était 40 ou 50 000, de mémoire.
Et j'ai vu, en 2024, la ville de Paris, donc à l'époque, Anne Hidalgo, annonçait qu'elle voulait créer 1 000 logements par an, grâce à la surélévation des immeubles. Donc là aussi, il y aura des allègements sous réserve qu'on surélève de 30% maximum la surface d'origine. Donc voilà, c'est un premier pas. C'est aussi dire l'écologie, c'est bien, c'est formidable et c'est nécessaire, mais il y a aussi un pragmatisme. Et l'homme, quand même, on fait partie du biotope. Donc le bien-être des gens dans les appartements et des logements pour les gens, c'est pas mal aussi.
Et du coup, ça, petite question, Catherine, est-ce que ça serait de nature, en fait, cet allègement de la réglementation, à avoir des effets, j'ai envie de dire, positifs aussi sur nos prix d'achat
et pas si que les promoteurs sont cohérents, ils disent ça nous coûte plus cher et tout ça, bah voilà, ça va pas vous coûter plus cher. Donc si vous êtes cohérent, eh ben, ajustez vos prix aussi.
Ouais, bon, alors du coup, vous parliez de la mairie de Paris, du coup, ça me permet d'embrayer derrière.
On est très bon en transition.
En fait, ils ont pensé avant, ils savaient même pas dans quel ordre j'allais traiter les sujets.
Mais c'est l'impro, ça s'appelle l'impro. J'irai pas le talent, faut rester modeste.
C'est pour ça que vous venez régulièrement, en fait, il y a que vous pour faire ça. Alors du coup, donc on parlait de la mairie de Paris. Ça n'achève à personne que nous sortons donc d'élections municipales et que nous avons un nouveau maire de Paris, en l'occurrence Emmanuel Grégoire. Question, quel était et quel est donc et quel sera le programme d'Emmanuel Grégoire pour la ville de Paris en matière d'immobilier et de logement?
Si je devais résumer, je dirais que c'est un peu dans la continuité de ce qu'a proposé Anne Hidalgo depuis 2014, mais il veut aller plus loin. Un exemple, les préemptions. Je discutais avant la campagne avec l'ancien adjoint au logement d'Anne Hidalgo, Jacques Baudrier, qui chiffrait à, pour 2025, 2000. Alors que les années précédentes, on était plutôt...
2000 logements préemptés.
Voilà, exactement, à Paris. Alors qu'avant, on était sur une moyenne autour de 600. Et il me disait, là, notre objectif, c'est de monter à 5000. Clairement, aujourd'hui, c'était dans le programme d'Emmanuel Grégoire, l'objectif, c'est de lutter contre la spéculation immobilière. Lutter contre les marchands de sommeil. Beaucoup d'ailleurs de régions, de villes, justement, traquent ces marchands de sommeil et dès qu'ils voient que bah, ils vont se précipiter sur un immeuble pour ensuite le diviser, du coup, la mairie actionne son droit de préemption et donc là-dessus, ils veulent accélérer.
Ça me paraît pas mal, non ?
C'est sur le côté préemption.
Je sais pas, non, je vous pose la question à tous
Moi,
les deux.
Moi, ça me paraît très bien, mais je n'ai jamais réussi à savoir combien d'argent avait été consacré aux 2000
600 logements. Millions. 600 pour millions 2000. Pour 2025, et je pose la question. Vous avez 10 milliards de dettes. Comment vous faites pour financer tout ça?
Donc, c'est pas à moi qu'il faut poser la question.
Voilà. Mais du coup, je leur pose la question. Si vous nous écoutez, monsieur Grégoire.
Alors, certains disent que c'est faux, qu'il n'y a pas 10 milliards de dettes.
Ah, bah écoute. Pourtant, j'imagine que c'est dans les textes. Hein. C'est quand même que...
Écoutez, moi, je dis juste qu'a priori, on n'est pas sur un bouleversement, en tout cas, de la politique en matière d'immobilier et de logement
après,
pour la ville de Paris.
Ce qui est assez intéressant, et juridiquement parlant, ce sera intéressant de le voir comment on met en place, c'est, et ça, on n'a pas trop parlé, je trouve, c'est l'interdiction des nouvelles résidences secondaires. Alors, la chasse aux logements vacants, c'est pas nouveau. Les logements vacants, on sait qu'aujourd'hui, on a une crise du logement. Et donc, il faut remplir ces logements. En revanche, moi, ce qui me dérange, c'est quand ils confondent, ils mettent dans le même sac les résidences secondaires, les logements vacants.
En fait, ils parlent souvent, et je rends hommage à Jacques Baudrier, parce que je trouve qu'il le fait de manière assez pédagogique, des logements sous-occupés, en fait.
Exactement.
C'est de ça dont ils parlent.
Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qu'on peut pas reprocher d'être plutôt à droite.
Alors que vous, c'est ça.
Je vous laisse juge. Et du coup, ils font une répartition entre les résidences principales, les résidences secondaires et les logements vacants. Les logements vacants, c'est un logement vide. Volontaire, pas volontaire, ça c'est un autre sujet. La résidence secondaire, c'est un logement sous-occupé. Et on n'a pas le choix, puisque si on l'occupe sur une durée trop importante, au-delà de 4 mois, ça devient votre résidence principale. Donc il faut bien qu'il y en ait quand même. Et donc il y a ce souci de transmission. Le problème, c'est qu'ils considèrent qu'il y en a beaucoup trop. Là encore, je cite Jacques Baudrier, par an, c'est 7 000 résidences secondaires de plus chaque année, contre une baisse de 8 000 de logements alloués. Donc ça leur pose problème. Et donc, aujourd'hui, c'est interdire les nouvelles résidences secondaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, demain, moi, j'ai envie d'acheter une résidence secondaire, un logement, je veux en faire une résidence secondaire, c'est plus possible.
Vous avez les moyens d'acheter une résidence secondaire à Paris, Guillaume?
J'en dirai plus, mais off. Il y a un exemple en Bretagne, à Cancale.
J'allais dire, il y a quand même des villes qui ont été, entre guillemets, ce qui nous emmènera d'ailleurs sur le sujet de Catherine derrière, mais... des villes qui ont été justement envahies de locations saisonnières, touristiques, machin, qui ont dû procéder et qui ont vu une inflation des prix, en fait, liée à la multiplication de résidences secondaires aussi.
Et d'ailleurs, là-dessus, j'embraye justement sur la partie location touristique. Autre mesure, interdiction des locations de type Airbnb permanent. En gros, le message d'Emmanuel Grégoire, c'est de dire « je ne veux plus qu'il y ait le moindre logement » qui ne soit loué uniquement sur Airbnb, en fait.
Ouais, mais ça, on a eu une boîte à outils qui a été votée par l'Assemblée nationale en disant, cette boîte à outils, vous, les communes, les villes, vous l'avez à votre disposition pour adapter finalement les outils qui vous sont proposés, pour réguler finalement la location saisonnière en fonction aussi des besoins des habitants permanents, parce qu'il y a ce sujet-là quand même. Et donc, effectivement, se dire, la location saisonnière, parce que par contre, j'ai entendu dire tout et n'importe quoi en mode, ça y est, il n'y aura plus d'Airbnb à Paris. Non, c'est pas le sujet.
Il a quand même dit dans son slogan, avec moi, Airbnb à Paris, c'est fini.
Donc, mais il faut écouter la suite, c'est... moi aussi parfois. Guillaume, vous avez pas fait des titres sur vos papiers pour attirer du clic et puis derrière vous expliquer.
Ça s'appelle un titre survendu.
Ça arrive
slogan.
Chez les journalistes et chez les politiques aussi. Bon, vous faites vachement bien en tout cas la passerelle avec Catherine. Parce que sur l'interdiction des meublés touristiques, dans certains cas, il y avait aussi dans cette boîte à outils, donc c'était... la loi maintenant d'Anaïg Le Meur et Iñaki Etchaniz, et qui prévoyait qu'on puisse en copropriété de mémoire dire nous on vote contre la location touristique dans notre copro. Oui. Certains l'avaient remis en cause, avaient même saisi le Conseil constitutionnel. A priori, c'est bon, c'est OK?
Non, pas complètement, puisque tout le monde s'est engouffré dans l'histoire en disant c'est super. Maintenant, il faudra la majorité des 2/3 des copropriétaires pour refuser le Airbnb.
Ça, c'est nouveau, parce qu'avant, c'était la majorité simple. Ouais.
Voilà, avant, c'était l'unanimité. Oui, majorité simple.
C'est ça.
Évidemment que le bailleur, lui n'allait pas voter pour.
Non. Ou contre. Pardon.
Oui, il n'allait pas voter pour l'interdiction.
Tout ça ne devient pas très clair.
Attention, là, on ne parle que des résidences secondaires.
Ouais.
Donc, c'est la moitié de l'histoire. Parce que, évidemment, les fameux je ne sais combien de logements résidences secondaires à Paris, OK, on pourra éventuellement...
On a 10% à Paris.
10% à Paris, sous réserve encore que dans le règlement de l'immeuble, il y ait une clause d'habitation bourgeoise, c'est-à-dire qu'on n'ait pas le droit de faire une activité commerciale, je ne sais pas, un bureau...
En gros, très clairement, parce que, vous m'avez perdu, mais moi, je ne suis pas une grande spécialiste d'Airbnb.
C'est pour les résidences secondaires, pas pour les résidences principales, cette histoire de majorité des 2/3. Et c'est aussi sous réserve qu'il y ait une clause d'habitation bourgeoise, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une clause qui dise... Enfin, qu'il n'y ait pas la possibilité d'installer un bureau ou un commerce dans l'immeuble.
Donc, en fait, parce qu'on aurait pu avoir l'impression que désormais, l'interdiction, elle est automatique.
Ouais.
En fait, non. Ce que rappelle très bien Catherine, c'est qu'il y a plusieurs critères à respecter. Cette clause d'habitation bourgeoise et évidemment le fait que ce soit une résidence principale. Donc, d'une certaine manière, Je discute avec un avocat je discute avec un avocat qui dit c'est bien de rappeler ces critères parce que tout le monde pourrait penser c'est bon maintenant si j'ai pas envie d'Airbnb dans ma copro c'est bon je peux m'y opposer et c'est pas automatique donc ouais. Donc voilà.
Donc on est à la moitié de l'histoire avec le droit surfe sur une ligne de crête parce qu'il y a le droit à la propriété, exactement. Le droit d'entreprendre.
Ah, c'est toujours le même sujet. On y revient à chaque fois sur la réglementation.
Et puis aussi le droit à chacun d'entre, enfin c'est inscrit dans
le droit de jouissance. Ouais,
voilà. C'est ça. Et le droit au logement pour les gens qui sont désespérément en quête d'un logement.
Ah mais c'est toujours ce sujet-là hein, et à chaque fois on y revient. Voilà, mais sur tous le les sujets que ce soit sur la réglementation.
L'intérêt général par rapport au droit de propriété qu'on rappelle qui est protégé par la Constitution, mais cet exemple.
D'ailleurs, je salue mon fils qui a appris récemment. Mais voilà, c'est effectivement.
Et donc, ça montre que d'une certaine manière, beaucoup pourraient y voir un droit de propriété qui est bafoué, mais il y a aussi l'intérêt général.
C'est écrit comme ça. Mais d'ailleurs, justement, ce sujet-là de la réglementation versus et l'intérêt général versus l'intérêt des particuliers et le droit de propriété, il se pose aussi sur la fiscalité. Et vous avez vu ma petite transition, parce qu'on va parler aussi résidence secondaire. Et là, vous nous proposez une toute nouvelle carte, Guillaume, des résidences secondaires. Ah. Alors, des résidences secondaires peu ou pas matraquées fiscalement, ça existe en France ?
Ça existe. Honnêtement, j'étais assez surpris parce que c'est vrai que...
Il y a deux villes dans la carte.
Non, mais par exemple, ce qui est très intéressant, je crois qu'on avait reparlé sur ce plateau il y a quelques mois, c'est par exemple entre Nice et Cannes, distant de quelques kilomètres. Et du coup, il y a une ville qui a appliqué, vous savez, cette fameuse surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. On rappelle, aujourd'hui, la taxe d'habitation existe encore, plus sur les résidences principales, mais sur les résidences secondaires. Et donc, du coup...
Elle peut être majorée de 60%, c'est ça ?
Chaque ville éligible peut augmenter la taxe d'habitation jusqu'à 60%. Chaque année, évidemment, on remet les compteurs à zéro. Hein. C'est pas parce qu'en 2025, vous l'avez augmenté de 60%, ça veut dire en 2026, ce sera la même chose. 2026, rebelote, on recommence. Et donc, du coup, c'est vrai que les résidences secondaires, aujourd'hui, elles sont quand même matraquées fiscalement. Et on a l'image de la résidence secondaire qui est la villa de luxe au bord de la mer, en Normandie, sur la Côte d'Azur, au littoral atlantique. Il y a une société qui s'appelle Greenacre, qui est montée un peu en puissance sur ses études autour des résidences secondaires, qui a essayé de trouver une troisième voie de villes, de destinations pour les résidences secondaires qui ne sont peu ou pas trop matraquées fiscalement.
Parce qu'il n'y a pas la mer.
Alors, évidemment, elles sont moins attractives. Montagne. Mais j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on veut. Et aussi, peu ou pas contraint sur les locations touristiques. Parce qu'on rappelle que la résidence secondaire, on peut aussi la mettre en location touristique.
En location saisonnière, ouais.
En demandant l'autorisation à la mairie ou pas. Et donc, du coup, ça fait une troisième carte qui est plutôt sympathique. Donc, je vous cite quelques villes. Par exemple, sur la Côte d'Azur, ils recommandent de miser sur Saint-Raphaël, Sainte-Agnès ou Castillon.
Si, il y a la mer.
Il y a la mer. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, dès qu'on pense à la Côte d'Azur, on pense à Nice, on pense à Cannes.
Non, Saint-Raphaël, moi, je trouve
voilà.
Ça choupi.
Mais Saint-Raphaël, hein, voilà.
Ça
bon.
Me dit bien, moi.
À l'ouest, la Baule. Au nord, le Touquet, cher à notre président de la République. En Normandie, des villes comme Cabourg, Honfleur, Blonville ou Pont-l'Évêque. Et en Corse, parce que là aussi, en Corse, c'est souvent des villes qui sont un peu matraquées fiscalement. Des villes qui sont peut-être un peu moins connues, comme Arbellon ou Carbini ou Casalabriva. Vous voyez, je ne connaissais pas.
Ce sont des villes où, en tout cas, là, vous pouvez avoir votre résidence secondaire et ce ne sera pas trop douloureux chaque année au moment du paiement de la taxe d'habitation.
Par exemple, vous voyez, j'avais un exemple face à l'océan Atlantique, à Lacano, dans une résidence, un 3 pièces, 210 000 euros. Bon, c'est quand même pas mal, quand même, avec vue sur l'océan Atlantique. Et en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, une maison en pierre, 140 mètres carrés, 2400 mètres carrés de terrain, 329 000.
Ah, sympa, voilà, donc... moi j'y vais, hein. Mais faut me donner d'abord, après la taxe d'habitation.
C'est vrai que
parce que là, c'est le prix d'achat, mais...
Malheureusement, j'ai pas noté. Ouais,
ce que vous nous vendiez, c'était pas des prix d'achat sympathiques et des localisations sympathiques, mais c'était des taxes d'habitation.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de noter les...
Coquin. Mais bon, après, a priori, ça fait partie.
Je vous donne rendez-vous sur figaro.fr.
Et je vous mettrai le 06 de Guillaume. Derrière. Mais bon, a priori, on est sur des villes où effectivement la douloureuse sera pas trop douloureuse.
Oui, justement. Non, mais de mémoire, on était au max, en tout cas la sélection, à 20%, entre 0 et 20% de surtaxe.
Quand on compare, par exemple, la taxe foncière dans certaines communes.
Voilà, côté location touristique, c'est parce que ça, c'est le minimum du minimum. Il faut faire une déclaration. Il n'y a pas d'autorisation à demander à la mairie.
Juste avoir un numéro d'enregistrement.
Voilà, numéro d'enregistrement.
Bon. Et si on parlait d'autre chose, parce que même si ça nous a bien donné envie d'investir en résidence secondaire, il n'y a pas que le résidentiel, en fait, dans la vie. Il y a la logistique aussi.
Oui, c'est plus prosaïque, on va dire ça.
Non, c'est... Alors, on en a besoin aussi, hein.
On en a besoin, la preuve, hein. Il y a Paris Région qui a fait une étude qui est parue cette semaine. Juste l'Île-de-France, c'est plus de 21 millions de mètres carrés, 1900 entrepôts et tout ça, logistique. Et les investisseurs sur ce type de produit, puisqu'on appelle ça un produit, jusqu'alors, c'était des institutionnels.
Ouais, des gros, quoi.
Aujourd'hui, il est possible, grâce à un véhicule, enfin, grâce à un produit qui est servi par Télamon et RS, ces gestionnaires de patrimoine, d'investir en tant que particulier dans la logistique et de loger son investissement dans son plan d'épargne retraite. Est-ce que le plan d'épargne retraite, je le développe?
Non, ça va, parce que sinon, on n'aura pas le temps de partir se voyager, voilà. Voyager
donc,
vers les Pyrénées et trouver un château.
Il est possible d'investir dans la logistique et de loger cet investissement dans son plan d'épargne retraite.
C'est rentable la logistique aujourd'hui, Catherine, parce
on dit que c'est de l'ordre de 4 à 6% selon les emplacements. Eux, ils vendent, enfin, ils disent hein, qu'ils assurent 7% de rendement net sur ce...
7% de rendement net,
ouais.
Ah ouais.
C'est ce qu'ils donnent, hein. Voilà, donc c'est pas un conseil que je donne, c'est un conseil de regarder aussi de ce côté-là. La logistique, pour l'instant dans les PER, il y a des actifs financiers, il y a un peu d'immobilier, mais c'est souvent du bureau.
Ouais.
Donc là, c'est possible aussi d'ouvrir à des actifs qui vraiment sont en plein essor, parce que le e-commerce implique, enfin le commerce en ligne implique que tout
mais
ça se développe
sûr.
Et que ce qu'on voit derrière vous, pour ceux qui ont l'image, bah, ça fasse floresse.
Je me suis retournée bêtement.
Surtout là où ça...
Il
voilà.
Y avait rien à ce moment-là. Mais tout ça pour dire qu'en plus de ça, sur la logistique, parce qu'on en parle assez régulièrement à l'antenne de BFM Business et des experts de l'IMO, on peut aussi investir en SCPI dans la logistique.
Exactement.
Donc il y a quand même effectivement quelque chose. Et puis on nous en parle assez régulièrement en ce moment en disant ça reste quand même, même si on se demandait s'il n'était pas déjà trop tard, parce qu'on en a parlé, du commerce en ligne... plus particulièrement encore depuis le post-Covid, mais ça continue effectivement d'être un créneau porteur. Allez, vendez-nous du rêve, Catherine, pour terminer. On part, on va voir un château.
Alors, on revient sur les résidences secondaires, mais moi, je vous emmène dans le
tas. C'est une sacrée résidence secondaire, là. Je ne suis pas sûre pour la taxe foncière, par la taxe d'habitation.
Bah, en fait, c'est le prix d'un appartement de 100 mètres carrés, à peu près
à Paris.
1 250 000 euros.
Alors, on est où, Catherine?
On est dans le Tarn, on est à Lautrec. C'est le village de la famille de Toulouse-Lautrec, si vous connaissez. On n'est pas trop loin de Castres, pas trop loin d'Albi. C'est un château médiéval qui a été construit en 1940,
hein.
Qui est actuellement en vente chez Sotheby's Real Estate. Il a été remanié, revu au goût du jour au 19e siècle. L'intérêt de ce château, ce n'est pas seulement un usage de résidence secondaire qui est possible, c'est aussi la possibilité de faire de l'hôtellerie.
Un gîte,
il y a
ouais.
Voilà. Il est aménagé, il y a des gîtes aménagés. Sympa. C'est un actif hybride, en fait. Et il semble qu'il y ait un regain d'intérêt pour les investisseurs et notamment les étrangers sur ce type de projet pour faire de l'hôtellerie en zone rurale, sortir un peu des sentiers battus.
Et se mettre
et
au
voilà,
calme un
ce
peu.
Ce magnifique ouais, manoir, je peux vous faire un petit peu le détail pour vous faire rêver.
Vous avez une demi-seconde, hein, je vous le dis.
700 mètres carrés, 9 chambres, 2 hectares, piscine, cour fortifiée, dépendance, le luxe absolu. Et puis, tout est déjà aménagé.
Ouais, c'est magnifique.
1 250 000.
1 250 000 à 3,4% d'intérêt. Ça fait combien dans le plaisant? Je vous lance pas.
J'ai pas fait ma dessus.
Merci Catherine de nous avoir fait voyager. Catherine Boquet, journaliste indépendante, et Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Souhaitons que la prochaine fois qu'on se parlera, on n'aura pas trop bougé du côté de nos taux d'intérêt. Mais n'oubliez pas, c'est toujours le moment d'acheter si c'est votre moment. Voilà, on le dit, on le répète à l'antenne de BFM Business et des experts de l'IMO. Je vous retrouve lundi.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.